attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent au boxeur Marcel Cerdan, une icône de la boxe française et mondiale. Il a gagné un titre de champion du monde dans la catégorie reine des poids moyens. C'était le 21 septembre 1948 et Tony Zell perdait son titre par chaos technique au Roosevelt Stadium de Jersey City. Il restera le boxeur aux 123 combats, 119 victoires, dont 64 par chaos. Marcel Cerdan est né le 22 juillet 1916 à Sidi Bel Abbès, dans le quartier du Petit Paris, en Algérie. Il vient d'une famille d'ouvriers agricoles. Ses deux parents sont d'origine espagnole, son père vient de Valence et sa mère de Murcia. Il est le quatrième et dernier garçon. Ses frères mourront tous de mort violente. Sous l'impulsion de son père, Marcel Cerdan commence la boxe anglaise sur un ring installé au milieu de la salle de bal du café familial à Casablanca, au Maroc. Devenu boxeur professionnel en 1933, il effectue ses premiers combats rémunérés en Afrique du Nord, où il se fait un nom. Après avoir écumé l'ensemble des plateaux nord-africains, son entraîneur, Lucien Roup, emmène ses meilleurs boxeurs casablancais à Paris en septembre 1937. La bande s'installe au camp d'entraînement du Vélo-Club de Levallois, à la Selle Saint-Cloud. Cerdan devient champion de France à 3 reprises, puis champion d'Europe dans la catégorie des poids mi-moyens. Semant la terreur sur les rings dans les années 1940, Marcel Cerdan est surnommé le bombardier marocain, ou l'homme aux mains d'argile. Cerdan obtient l'occasion d'affronter le champion d'Europe des poids mi-moyens, l'Espagnol José Ferrer, dans une soirée historique pour le sport français. Le match a lieu 65 jours après la rafle du Veldiv du 16 au 17 juillet 1942, où quelques semaines plus tôt, 8160 juifs ont été parqués. Les autorités allemandes et celles de Vichy ont œuvré pour que ce combat, le premier championnat d'Europe organisé en France depuis l'armistice du 22 juin 1940, ait lieu. Après avoir fait attendre Cerdan quelques instants, José Ferrer apparaît drapé d'un peignoir frappé d'une croix gammée, entouré par deux hommes en uniforme franquiste. Après avoir fait un salut fasciste, il monte sur le ring sous les invectives du public qui jette des pieds sur les premiers rangs. Dès les premières secondes du combat, Cerdan touche son adversaire d'un contre du droit. Ferrer fait l'erreur de se relever sans reprendre son souffle, évitant le compte de l'arbitre, mais s'infligeant une nouvelle série de coups de Cerdan. En confiance, ce dernier continue à avancer dans son style caractéristique, faisant tomber 5 fois son adversaire au tapis, ne lui laissant aucun répit, multipliant les coups dès qu'il se relève. Face à ce spectacle, le coin de l'Espagnol jette la serviette après 83 secondes d'un affrontement à sens unique. Le public acclame le Français, puis hurle la Marseillaise, fait rare sous l'occupation, les autorités allemandes l'ayant interdite. Le champion français, qui s'est refusé à faire le salut nazi, refuse également de se rendre à la soirée d'après-combat organisée par les Allemands à laquelle il a été convié dans les vestiaires. Se sentant menacé, Cerdan préfère quitter la France pour le Maroc. En 1944, Cerdan brille dans des tournois interalliés à Alger puis à Rome, accompagnant les avancées des troupes alliées. À la fin du mois d'août 1948, Marcel Cerdan signe le contrat de sa vie à New York lors d'une cérémonie devant une centaine de journalistes pour officialiser son combat pour le titre de champion du monde des poids moyens face à l'Américain Tony Zell. Ce combat est organisé dans le cadre du tournoi des champions et rapporte aux Français 50 000 dollars à la signature du contrat, un montant record pour un champion européen. Tony Zell, surnommé le roi du chaos, est confiant et pronostique qu'il battra le Français en moins de 5 reprises. S'il n'est pas favori du combat, Marcel Cernan a vu sa côte grimper lors des dernières séances d'entraînement. Lorsque le boxeur français monte sur le ring du Roosevelt Stadium à Jersey City le 21 septembre 1948 pour disputer le combat de sa carrière, la France, se réunit autour de postes de radiodiffusion dont les ventes ont explosé. Le combat est suivi dans toute la France. Pour l'occasion, l'équipe loue un cinéma au Faubourg Montmartre pour abriter plus de 1000 sportifs, retransmet le match avec des haut-parleurs, puis réalise un tirage record. Alors que Fernandel est au bord du ring, Mistinguett, Jean Cocteau, Jean Marais dînent au Lido dans l'attente du verdict. Dès le début de l'affrontement, Cernan impose son rythme, mène le combat pour empêcher Gel de le faire. Garde hermétique au corps, conditions physiques parfaites, à l'offensive avec des séries de crochets à mi-distance, Marcel Cernan fait piller à Gel, qui n'a pas plus loin que la 6e reprise depuis 7 ans, son manque de rythme. Après 11 reprises d'une rare violence sous le regard des 19 272 spectateurs, Cernan met KO son adversaire à la dernière seconde de la 11e reprise d'un violent crochet du gauche. Sauvé par le gong, Zal est ramené inconscient dans son coin par ses aides, mais ne peut poursuivre à la reprise du 2e round. Anthony Florian Zaleski, dit Tony Zell, est né le 29 mai 1913 à Gary. C'est un boxeur américain d'origine polonaise. Aux États-Unis, la boxe est le sport du dernier arrivé. Boxeur et ouvrier dans les aciéries d'Indiana dans les années 1930. Le 20 mars 1997, Tony Zell meurt à l'âge de 83 ans, après avoir souffert pendant plusieurs mois des maladies de Parkinson et d'Alzheimer. À son retour en France, Cernan est accueilli en héros, dès qu'il met le pied à terre à l'aéroport d'Orly. Apprenant que son entraîneur Roop se réserve parfois un pourcentage de choix sur certaines transactions commerciales faites en son nom, Cernan résilie son contrat en 1949. Il signe avec Joe Longman, personnage douteux aux éternelles lunettes noires qui lui ouvrent les portes de la vie mondaine. Son nouveau manager, Longman, lui conclut le combat face à Jack LaMotta à Détroit le 16 juin 1949. LaMotta est un prétendant peu connu, 10e poids moyen mondial, propulsé par l'un des parrains de la mafia, la Cosa Nostra. Au Brinks Stadium de Détroit, le Français est surpris par un combat avancé d'une demi-heure, l'empêchant d'effectuer son rituel tour de chauffe sur le ring. Sous les coups de l'Américain, Marcel Cernan tombe et se blesse à l'épaule gauche, une déchirure des ligaments dans la première reprise, un incident que les journalistes français voient comme une simple glissade. Touché physiquement, il doit subir les assauts de l'Américain sur son épaule blessée. Sans avoir démérité, il est contraint d'abandonner avant la reprise du 10e round et de laisser sa couronne à LaMotta. Cette défaite est amère pour Cernan, certain de battre son adversaire s'il est en pleine possession de ses moyens. Une revanche est prévue à la fin du mois de septembre 1949 au Madison Square Garden. Mais 4 jours avant le match, LaMotta déclare forfait, en arguant d'une blessure à l'épaule droite contractée pendant un entraînement. Le combat, reporté en décembre, n'aura jamais lieu. Jacobe LaMotta, dit Jacques LaMotta, surnommé The Raging Bull, le taureau enragé, ou The Bronx Bull, le taureau du Bronx, en raison de sa puissance et de son ardeur au combat, est né de parents immigrés italiens le 10 juillet 1922 à New York, dans le Bronx. Il apprend dès l'adolescence la boxe dans une maison de correction du Bronx. Sa vie fut retranscrite à l'écran dans le film Raging Bull de Martin Scorsese en 1980 avec Robert De Niro dans le rôle du boxeur. Il est mort le 19 septembre 2017 à Ventura, en Floride, à l'âge de 95 ans. Marcel Cernan ne revendique pas une vie mondaine, aussi riche que celle de Georges Carpentier. C'est un homme rare, discret, généreux et humble. Cernan n'aimait pas faire mal. La peur l'a poursuivi, preuve d'humilité et de sagesse. Vers le milieu des années 1940, il entame une liaison amoureuse avec la chanteuse Édith Piaf. L'idylle est d'abord tenue secrète pour préserver les vies familiales et sportives du champion, jusqu'à ce que Dimanche, France Dimanche, dans son édition du 30 mai 1948, à la recherche d'un scoop racoleur, titre « Piaf porte malheur à Cernan ». Le bombardier marocain venait de perdre le 23 mai son titre européen face au Belge Cyril Delanoë. Marcel Cerdan a perdu la vie le 28 octobre 1949 dans le crash de l'avion Lockheed Constellation sur l'île de San Miguel, dans l'archipel des Açores, au milieu de l'Atlantique. Cerdan se rendait à New York pour y retrouver Edith Piaf. Elle l'avait incité à prendre l'avion plutôt que le bateau, synonyme d'un trop long voyage, et pour préparer son match, revanche, titre mondial en jeu, face à Jacques Lamotta. Son corps est rapatrié à Casablanca le 8 novembre. Une chapelle ardente est installée au stade Lyautey, où une foule massive se presse pour lui rendre hommage, nuit et jour. Le 10 novembre 1949, 70 000 personnes assistent à son enterrement au cimetière de Benmexique. Sa dépouille est transférée, 46 ans plus tard, à la demande de sa femme Marinette, en France, où il est inhumé dans le cimetière du sud de Perpignan, le 29 octobre 1995. Après la mort de Marcel Cerdan, sa femme Marinette et sa maîtresse Edith Piaf deviennent amies, séjournant alternativement l'une chez l'autre. Le fils aîné de la famille, Marcel Junior, quitte Casablanca pour s'installer chez Piaf, à Paris. Il partage son intimité dans ses dernières années de vie avant sa mort en 1963. Son histoire d'amour avec Edith Piaf participe à son mythe. La chanteuse vedette lui dédie jusqu'à sa mort ses chansons « Hit Malamour » et « Mon Dieu ». Leur idylle est sujet à deux œuvres cinématographiques, « Edith et Marcel » en 1983 de Claude Lelouch et « La Môme » en 2007 d'Olivier Dahan. Dans « Edith et Marcel », son rôle est joué par son fils, Marcel Cerdan Jr., lui-même boxeur professionnel de 1958 à 1972, en remplacement de l'acteur Patrick Devers.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.